RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage en Bolivie, où il y a encore 10 ans, on estime qu'il y avait plus de 500 ONG dans tout le pays, avec de tout petits projets de développement ou alors des budgets de plusieurs millions d'euros gérés par des coopérations européennes. Aujourd'hui, il y aurait à peine 150 organisations qui travaillent sur le territoire. Alors pourquoi une telle baisse de la coopération internationale dans le pays andin, l'un des plus pauvres du continent? Une économie du développement qui se transforme, mais pas seulement, aujourd'hui, les ONG ne sont plus les bienvenus. Bolivie, les ONG dans la tourmente. Grand reportage, signé Alice Campagnol.
Queridos amigos y amigas, mi nombre es Ana.
Y el mío, Álvaro.
Vivimos en el altiplano boliviano. Somos de la provincia Ingavi.
Del distrito 3 del municipio de Viacha.
Petits enfants pauvres, aux visages brûlés par le soleil de l'altiplano qui font plusieurs kilomètres à pied pour aller à l'école, tout y est pour faire pleurer le donateur occidental. Ce spot date de 2011, époque où il y avait encore beaucoup d'ONG dans le pays. La Bolivie ayant été pendant longtemps le pays le plus pauvre du continent, ici florissaient les ONG et les agences de coopération européenne dans les domaines de l'éducation, de l'environnement ou des droits des peuples indigènes. Mais depuis, la donne a bien changé. Les organismes de développement quittent le pays petit à petit. Selon le gouvernement bolivien, cette baisse progressive est un phénomène normal. L'explication est simple, la Bolivie n'est plus un pays pauvre, alors plus besoin d'aide internationale. Le vice-président bolivien Alvaro Garcia Linera, lors de la remise en 2015 du rapport du programme des Nations Unies pour le développement.
Entre l'année 2002 et l'année 2013, nous avons connu une croissance de 34%. La part de classe moyenne a augmenté de 14 points, presque 15. De la même façon, les secteurs pauvres, très pauvres même, durant la période progressiste, passent de 17% de la population à 12% de la population.
Des chiffres éloquents. En 2005, 58% des Boliviens vivaient dans la pauvreté contre 36% 10 ans plus tard. Mais vraiment, peut-on dire que la Bolivie n'est plus un pays pauvre? Il faut aller à la rencontre d'un économiste pour comprendre. Carlos Toranzo s'intéresse particulièrement à l'économie des ONG et pour lui, ce départ des organisations est le résultat d'un double phénomène.
En este tiempo en que Bolivia pasa
Au moment où la Bolivie passe du statut de pays à faible revenu au statut de pays à revenu intermédiaire, beaucoup de pays européens qui finançaient des ONG ici ont préféré recentrer leur action sur l'Afrique, où le revenu par tête n'est pas de 3 000 $ comme ici, mais plutôt de 500 ou 1 000 $ dans certains endroits. Les Hollandais sont partis, comme les Anglais, les Suédois n'ont plus que des projets très modestes, les Danois sont sur le point de partir.
L'économie du développement étant elle-même plus fragile qu'auparavant, il a fallu se réorganiser, la Bolivie n'est plus la priorité. Voici l'explication toute simple du départ des ONG, explication qui plaît au gouvernement. Mais beaucoup ont une autre analyse de la situation. Carlos Toranzo, l'économiste le premier. Pour lui, pas de doute, la Bolivie reste un pays pauvre.
En matière de services basiques, le niveau du pays est très bas. La santé et l'éducation sont vraiment déplorables. Ici, il est interdit de tomber malade. Les populations rurales n'ont pas accès aux soins médicaux. À l'hôpital public, les gens des bidonvilles qui n'ont pas de sécurité sociale font la queue pendant 3 jours pour s'inscrire sur une liste, puis attendent une année entière pour se faire opérer. Il y a des hôpitaux où il n'y a pas de quoi faire des radios, où ils n'ont pas de scanners.
2013, c'est l'année charnière. Depuis, le nombre d'ONG ne fait que baisser dans le pays. C'est l'année lors de laquelle est votée au Parlement bolivien une loi sur le statut juridique des fondations et des organisations non gouvernementales. Dans la presse, la loi dite des ONG. Depuis cette norme, il n'est plus aussi facile pour les ONG de travailler sur le territoire bolivien. Pour y voir plus clair, rendez-vous à l'Université de La Paz où travaille Jorge Abastoflor. Le politologue a travaillé à compiler les normes boliviennes concernant les organisations et il ne voit pas vraiment le problème.
Porque las organizaciones cuando han comenzado a trabajar lo han hecho en un ambiente de libertad extrema.
Pour les premières ONG qui ont travaillé ici, il n'y avait quasiment aucune règle. C'était la liberté totale, car l'État se servait des organisations pour combler son absence dans des domaines où les autorités étaient complètement défaillantes. On leur a laissé une grande marge d'action pour qu'elles puissent travailler et améliorer ainsi le niveau de vie des Boliviens, surtout des plus pauvres. Mais avec le temps, il y a eu de plus en plus de règles. Et sincèrement, je ne pense pas qu'il y en ait plus qu'ailleurs dans le monde. Je pense que l'on régule moins les ONG qu'aux États-Unis ou que dans beaucoup de pays d'Europe. Les ONG ont ressenti ces nouvelles règles comme une restriction de leur liberté d'action et de leur capacité de décision. Que demande-t-on aujourd'hui aux ONG ? Qu'elles s'alignent avec les objectifs de développement du gouvernement et qu'elles disent à quel pilier de ce plan elles vont contribuer.
Les organisations doivent déclarer à quel pilier sont collaborant, à quel pilier de développement sont collaborant.
Mais malgré les propos rassurants de Jorge Abastoflor, c'est bien cet article qui coince. Il faut que le travail des ONG s'inscrive dans les objectifs de développement économique et social du gouvernement, sans quoi elles ne peuvent pas travailler dans le pays. L'ONU elle-même a exprimé ses craintes contre une norme qui restreindrait la liberté d'association. Les termes de la loi sont trop vagues et l'article sujet à interprétation. À peine une quinzaine de jours après le vote de cette loi numéro 351, Evo Morales fait une annonce fracassante lors de la cérémonie de la fête du travail.
J'ai une annonce importante à vous faire. En ce 1er mai, nous avons décidé d'expulser USAID de Bolivie. USAID s'en va. Et camarade ministre des Affaires étrangères, vous pouvez informer tout de suite l'ambassade des États-Unis. Plus jamais. Plus jamais USAID ne va nous manipuler. Plus jamais USAID ne va utiliser nos compagnons dirigeants. Plus jamais on ne va nous donner l'aumône. Nous allons nous faire respecter et ne plus accepter cet instrument de domination.
USAID est accusé d'ingérence politique et de tentative de déstabilisation du pouvoir. Quelques années auparavant, c'est l'ambassadeur américain qui avait été mis dehors. En 2013, toujours en décembre, un autre pas est franchi. Plus étonnant, le gouvernement décide d'expulser une ONG danoise, Ibis. Engagée particulièrement dans les droits indigènes, l'écologie et l'éducation, présente dans le pays depuis 1983. Le gouvernement bolivien avance les mêmes arguments, intrusion dans les affaires politiques et conspiration contre le président Evo Morales. Jimena Valdivia était la directrice d'Ibis à l'époque. Aujourd'hui, elle vit à La Paz.
Buenas tardes. Yo soy Jimena. ¿Tú?
Alice.
Alice. Mucho gusto.
Un gusto, Alice. Pasa, por favor.
Sí, la salida de ONGs se rumoreaba más o menos desde...
Il y avait des rumeurs d'expulsion d'ONG depuis novembre. On m'a beaucoup demandé si Ibis allait faire partie de ces ONG mises dehors. Je répondais toujours « non, impossible », car nous avions de bonnes relations avec le gouvernement pour l'aider dans le dialogue avec les mouvements indigènes. Pour cette raison, j'étais sincèrement persuadée qu'Ibis ne quitterait pas le pays. C'est pour ça que je continue à me poser la question. Pourquoi nous ?
Pourquoi Ibis ? Jorge Abastoflor a une réponse.
En el caso de Ibis, obviamente se mostraron las pruebas de...
En ce qui concerne Ibis, il y a des preuves qui justifient ce qui s'est passé. L'une des raisons principales, c'est qu'Ibis avait soutenu une manifestation contre le gouvernement et ne s'était pas cachée de ce soutien. Elle l'avait publié dans des journaux et dans ses propres publications aussi. L'ONG s'en est vantée, ce qui va à l'encontre de l'un des principes des organisations, qui est de faire profil bas.
Une des lignes que manejan les organisations, qui est de maintenir son travail en bas profil.
Bien que respectée et présente dans le pays depuis plusieurs décennies, bien qu'associée à une ONG mondialement connue, Oxfam, Ibis aurait dû faire profil bas. Alors les ONG seraient-elles tout simplement devenues indésirables en Bolivie?
Aquí es otra oficina de
Pour les membres de la Fondation Tierra, la réponse est oui. Beaucoup d'ONG sont devenues gênantes pour le gouvernement. Dans cette fondation, par exemple, on écrit des livres autour des thématiques agricoles, particulièrement la recherche-action. Voilà comment la Fondation décrit son propre travail. Mais ces ouvrages sont loin d'être inoffensifs et ils ne plaisent pas toujours aux autorités. Gonzalo Colqué, directeur de l'organisation.
On connaît tous l'histoire. Il y a quelque temps, le gouvernement a décidé de s'attaquer à 4 ONG boliviennes. Nous faisions partie de ces ONG. Ce que voulait le gouvernement, c'était nous faire taire, parce que nous travaillons avec les agriculteurs afin qu'ils réclament une meilleure répartition des terres. Ce que le gouvernement ne faisait pas. Nous remettons en cause les politiques agraires du gouvernement. Et ça, ça ne leur a pas plu du tout.
Significava que este sector este questionnava estas nuevas políticas agrarias del gobierno boliviano. Entonces,
en août 2015, le vice-président Alvaro García Linera menace publiquement 4 ONG boliviennes financées par des fonds internationaux, parmi lesquels la Fondation Tierra. Messieurs des ONG, dit-il, vous n'avez aucun droit de vous mêler des affaires politiques internes. Si vous le faites, vous serez mis dehors. Encore une fois, l'annonce est étourdissante, mais la réaction ne se fait pas attendre. 2 jours plus tard, une lettre est publiée dans les médias.
Par cette lettre, nous tenons à vous communiquer notre préoccupation face aux accusations infondées et aux menaces d'expulsion que vous avez proférées contre 4 ONG reconnues dans le pays. Le CEDIB, le CEDLA, la Fondation Tierra et la Fondation Milenio. Ces menaces sont un geste d'autoritarisme et d'intolérance de votre part. Et si elle venait à se concrétiser en une véritable expulsion, cela constituerait une restriction grave des droits civils, une atteinte à la liberté d'expression et d'association. Ce serait un énorme recul pour la démocratie bolivienne. Les ONG menacées réunissent des intellectuels dont la pensée critique est reconnue, notamment dans le monde de la gauche. Ils se consacrent à écrire des rapports et à faire des recherches sur différentes thématiques de la réalité bolivienne comme l'économie, l'environnement, ou les enjeux territoriaux. En réalité, le seul problème de ces recherches est qu'elles viennent contrarier les perspectives gouvernementales et dérangent le parti au pouvoir.
Ils sont une trentaine d'intellectuels latino-américains à avoir signé cette lettre destinée à Alvaro García Linera. Et si le vice-président a ensuite tenté de calmer le mal était déjà fait. Et il suffit de lire un de ses livres, El ONGismo, pour savoir que le vice-président n'a jamais vu les agences de développement étrangères d'un très bon œil.
Oui, il existe des ONG qui soutiennent les mouvements sociaux en se soumettant à leurs décisions. Mais beaucoup d'autres cherchent uniquement à imposer leurs idées et leurs actions aux organisations indigènes et paysannes. Elles paient des voyages aux dirigeants, signent des documents au nom des organisations sociales, se permettent de mener les débats lors des réunions et soutiennent les manifestations contre le gouvernement.
Pourtant, les relations ONG-gouvernement n'ont pas toujours été si mauvaises. Le credo d'Evo Morales, quand il n'était encore que candidat à la présidentielle, respect de la terre-mère et dignité des peuples indigènes. Il voulait un gouvernement révolutionnaire et socialiste. À l'époque, il a tout le soutien des ONG. Et quand il arrive au pouvoir, de nombreux membres du cabinet d'Evo Morales, des ministres, des secrétaires d'État, sont issus du monde des ONG. Mais voilà, les organisations se sentent rapidement trahies. Méga projet nocif pour l'environnement, construction d'une route en plein milieu d'un territoire protégé à la biodiversité exceptionnelle, vente des terres à des géants de l'agro-industrie. On leur a menti et les ONG le font savoir. Ce soir, le monde des organisations est réuni à l'Université de La Paz dans le salon d'honneur, aux murs peints de fresques révolutionnaires. Différentes ONG et de simples citoyens se sont rassemblés en solidarité avec le Centre de documentation et d'information de Bolivie, le CEDIB, l'une des organisations qui avait été menacée par le vice-président. En 2018, plusieurs années après, l'organisation se dit toujours harcelée pour être une voix dissidente en matière d'environnement et de droits indigènes notamment. Le mot d'ordre de ce soir résiste, Sedib.
On a commencé à être harcelés, comme d'autres ONG l'ont été.
Pablo Biegas, chercheur au sein de l'organisation, explique ce à quoi ils font face.
Ce harcèlement prend plusieurs formes. Il y a les impôts, le ministère du Travail aussi, et même le ministère des Affaires étrangères. Bref, plein d'institutions étatiques qui soudain venaient nous demander des papiers administratifs d'il y a 10 ou 15 ans. Il a fallu faire face à des démarches de plus en plus longues et compliquées. On a dû embaucher beaucoup de personnel administratif, uniquement consacré à ces demandes du gouvernement. J'imagine que n'importe quelle organisation plus petite que nous n'aurait pas pu résister. Et en novembre dernier, le dernier coup porté, ce sont nos comptes bancaires qui ont été gelés.
Ici, à cette soirée de soutien au CEDIB, on croise des chercheurs, des activistes, des étudiants qui sont là pour résister, disent-ils. Et pour Jorge Antonio Pérez, consultant dans le monde des organisations, c'est là toute la force de la Bolivie.
La grande force de la Bolivie, c'est sa société civile, qui est très déterminée, qui sait résister et qui a une véritable capacité de mobilisation. En sachant que notre pays est très divers, très métissé, cela peut nous emmener vers de nouvelles propositions de vie, une nouvelle vision du monde. Mais malheureusement et paradoxalement, depuis 10 ans, on cherche à imposer un État omnipotent qui veut empêcher tout développement de la société civile.
Que quiera anular y cerrar y tapar todas las posibilidades del ejercicio y del desarrollo de la sociedad civil.
Beaucoup d'ONG considèrent qu'elles sont désormais pleinement entrées en résistance et pour elles, il n'est pas question d'abandonner la lutte. Bolivie, les ONG dans la tourmente. Un grand reportage d'Alice Campagnol, réalisation Pierre Chaffanjon.
Europa 1939. Todos decían que no en las cancillerías. Años de guerra caliente, varios años antes de la guerra fría. Todos decían que no. Que sí, Bolivia. Berlín era un nido de ratas. El paladín de la bravata gritaba, llenaba estadios. De un árido erial de desvarío, ario. De un árido erial de desvarío, ario. Las puertas se iban cerrando. Vociferaba y entonces llegó del frío en pleno glaciar hiriente una insólita vertiente de agua tibia. Oh, todos decían que no. Cuando dijo que sí, Bolivia. Cuando dijo que sí, Bolivia. Todos decían que no. Cuando dijo que sí, Bolivia. Todos decían que no. Cuando dijo que sí, Bolivia.
Viene y va,
vuelve a venir e irse, y tras alejarse vuelve, y tras volver se distancia.